Good Morning Market, le club de la bourse.
8h38 et le club de la bourse, aujourd'hui c'est avec Pierre Blanchet. Bonjour. Bonjour, responsable des solutions d'investissement retail chez Amundi, à côté de vous Christian Parizeau. Bonjour, conseiller Bonjour. Économique pour Aurel BGC. Je commence avec les chiffres de la nuit quand même, ces chiffres chinois, Christian. On voit quand même des exportations et des importations chinoises très élevées de mai à mai. Comment il faut les regarder? C'est parce qu'il y avait un trou d'air l'année dernière, donc il y a un effet de bord. Comment vous regardez ça?
Oui, alors c'est toujours compliqué à interpréter parce qu'il y a beaucoup d'effets de base, donc forcément il y a une base de référence qui était particulièrement basse. Et puis surtout, quand on regarde dans le détail, pourquoi on a finalement ce commerce chinois qui est très dynamique, c'est essentiellement pour des constitutions de stocks de précaution. C'est ce qui nous revient. C'est les entreprises importent très rapidement, passent leurs commandes en Chine de peur d'un blocage du commerce mondial avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, c'est pas forcément très rassurant pour l'avenir. Et puis surtout, si vous prenez depuis le début de l'année en cumulé, on est quand même sur une baisse de l'excédent chinois. Donc, c'est toujours une double lecture. C'est-à-dire qu'en variation sur un an, oui, c'est bien, mais ça montre quand même qu'il y a un ralentissement. Donc, oui, il y a des bons signes parce qu'il y a quand même des signaux sur la demande intérieure où la Chine importe. Mais on est quand même aujourd'hui sur beaucoup moins de commerce avec les États-Unis si on prend en cumulé.
Ouais.
Pas au moins le mois.
Et dans quelle mesure, à peu près,
c'est la relation? Alors, on est à moins 5,5 en cumulé depuis le début de l'année sur les importations en provenance des États-Unis. Par contre, la Chine exporte beaucoup plus sur les États-Unis. Mais donc, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre du commerce entre les États-Unis et la Chine qui se poursuit. Donc ça n'a rien réglé, les problèmes de droits de douane. Et on a surtout beaucoup de volatilité à court terme liée à ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc il faut interpréter ces chiffres avec beaucoup de prudence quand même globalement.
Et est-ce qu'on a, Pierre Blanchet, un report du côté européen avec la zone européenne qui se retrouve à avoir beaucoup de produits chinois qui ne vont plus ailleurs arriver sur nos terres?
Oui, ça c'était le risque bien identifié déjà l'année dernière au début de la guerre commerciale. C'est ce qui se passe, et d'où la réaction des Européens qui tentent de mettre en gros des barrières à l'entrée du marché commun et aussi de recréer la compétitivité prix. Mais bon, c'est très difficile à réaliser. Donc, à ce stade, effectivement, on est toujours dans une phase où les Européens sont finalement net acheteurs de produits chinois qui sont bon marché et qui seraient censément des contributeurs négatifs à l'inflation. Voilà, ça c'était avant le choc énergétique, mais ouais. Voilà, ça reste quand même le flux central.
Sur ce choc énergétique, sur la question du pétrole, on est remonté, là, Étienne, on est à 97 sur
93.
Le Brent. On est redescendu à 93, oui, pardon, c'était... j'ai raté 2 heures de cotation. Donc on est redescendu un peu. Ce montant, il est, selon vous, pas assez élevé encore?
Alors, c'est pas exactement ce qu'on dit. Ça, c'est le prix spot. En fait, vous savez, le marché du pétrole, c'est quand même essentiellement un marché de forward. Ouais. Donc là, on est quand même avec un marché de forward qui a fortement augmenté par rapport à il y a quelques semaines. Donc le marché maintenant considère que le prix d'équilibre de long terme n'est plus dans les 60, mais plutôt beaucoup plus haut. Il y a un sujet qui est en train d'émerger, c'est celui des réserves stratégiques. Un sujet qui n'est pas très facile à appréhender puisque par nature, qui dit stratégique dit un peu secret, on va dire dans certaines mesures, en tout cas sur la réaction des acteurs. Donc, je dirais plutôt que le marché du pétrole, à ce stade, fait toujours l'hypothèse d'une réouverture du détroit. Comme Étienne le mentionnait tout à l'heure, clairement, ça n'a pas l'air d'être demain matin. Donc, on doit quand même se projeter vers une phase où on aura durablement moins d'offres de pétrole. Et donc, on va plus utiliser les réserves, que ce soit en Chine, en Europe, aux États-Unis. Voilà, on est quand même à ce moment de jonction où il va falloir finalement se projeter sur un monde...
Avec des pénuries ou pas
Pénuries, je pense qu'on n'en est pas du tout là.
Ouais.
On en est surtout à l'ajustement de l'offre disponible. C'est pour ça que les réserves sont importantes. Elles sont en Europe, comme vous savez, probablement à 90 jours. Donc, on a normalement suffisamment de réserves pour faire fonctionner l'économie pendant 3 mois.
Là, on est déjà à 100 jours de guerre.
Voilà, mais évidemment, il y a quand même du flux. C'est pas 100% du brut qui passe par le détroit. Mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a quand même un petit juge de paix quelque part qui est les réserves qui sont considérées comme nécessaires. Et donc, les pays et les grandes zones exportatrices, dont les États-Unis, vont devoir à un moment peut-être s'ajuster. Alors, marginalement, mais si elles décidaient de réduire un petit peu leurs exportations d'hydrocarbures pour reconstituer leur stock, ça peut avoir un impact sur le prix.
Mais la demande, Christian, a un peu baissé quand même. On le voit en France, en Europe, c'est peut-être déjà une bonne nouvelle.
Oui, mais je vais être méchant, pas suffisamment.
Ah.
Parce que normalement...
C'est peut-être pas assez cher.
Si on voulait, c'est un peu tout le problème. Si on voulait vraiment rééquilibrer le marché du pétrole, c'est quand même 10% de demande en moins qu'on devrait avoir au niveau mondial. Donc c'est quand même assez violent. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une demande un peu moins forte. Alors, c'est pas exceptionnel au niveau des pays développés, notamment on voit qu'aux États-Unis ça reste quand même assez mineur. Par contre, c'est beaucoup plus visible dans les pays émergents. Et on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ont pas le choix de toute façon,
oui, c'est ça, il y a
une
problème
de pénurie. Et puis juste pour revenir sur les stocks, il y avait aussi un élément qui nous a fait tampon pendant un bon petit moment, c'est ce qu'on appelait les stocks flottants, vous savez, ces bateaux russes qui trouvaient pas de preneur, qui tournaient en rond
bateaux
en mer.
Fantômes, ouais.
Bon bah on a permis l'achat de ce pétrole et donc ça a servi de tampon, mais ça ce tampon, il est aussi en train de disparaître. Donc on a de plus en plus aujourd'hui d'inquiétude qu'on va peut-être avoir les vrais effets de cette crise durant cet été. Parce que cet été, on a une demande qui est saisonnière, qui en demande toujours dans les mois d'été hein, et qui va progresser. À un moment où on n'a toujours pas réglé le problème d'offre. Parce qu'on a eu les dernières statistiques du FMI qui nous montrent l'arrêt de production au Moyen-Orient. C'est vraiment assez important et ça ne va pas être comblé d'ici au moins la fin d'année. C'est-à-dire qu'on est sur une offre qui va être contrainte d'ici la fin d'année. Donc, on peut espérer en effet que les stocks permettent finalement de compenser ça le temps qu'on remette tout en route et que l'année prochaine on rééquilibre le marché. Mais vous voyez qu'on est maintenant sur l'idée que faut jusqu'à la fin d'année, on tienne sur les stocks. Et pour l'instant, le détroit d'Hormuz n'est pas débloqué. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une phase d'amélioration. Mmh. Parce que ce que nous dit aujourd'hui l'AIE, c'est que pour revenir à la normale, c'est entre 3 et 6 mois pour revenir à la normale de la production. Donc ça veut dire qu'on va déclencher le chrono. Si on débloque le détroit d'Hormuz, un mois de déminage, reprise de la production, remise en route tout ça, et donc ça veut dire qu'on déborde sur 2027. Donc il faut que nos stocks tiennent au moins jusqu'à 2027. Sinon, il faut détruire la demande. Et donc pour détruire la demande et pour compenser tout ça, c'est encore des hausses de cours du pétrole. Donc aujourd'hui, on a quand même des cours du pétrole entre guillemets qui sont pas chers.
Ouais.
Qui sont pas chers au regard du risque, au regard de l'incertitude, parce que les marchés espèrent que demain ça se débloque. Et c'est difficile de prendre une pause parce qu'on sait que demain Monsieur Trump peut nous dire ça y est, tout est réglé. Donc personne ne joue vraiment mais plus ça passe et plus on se rapproche de cette demande saisonnière de l'été, plus on a une pression très haussière sur les cours du pétrole et plus on a un risque de dérapage. Donc on voit que la tension est quand même très vive aujourd'hui à attendre sur les cours du pétrole.
Étienne, on va avoir une fin de semaine chargée. On aura jeudi la BCE et les résultats d'Oracle, si j'ai bien suivi.
Non, c'est demain soir.
Oracle. Ah non, c'est demain. Alors oui. Demain Oracle,
jeudi
BCE,
Adobe.
Vendredi SpaceX.
SpaceX, avec un groupe qui souhaite lever, pour rappel, 75 milliards de dollars. Et puis hier, son petit concurrent, OpenAI, hein, la maison mère de ChatGPT, qui a déposé son dossier auprès de la SEC. C'est une façon de dire, en plein roadshow hein, de SpaceX, on est là, gardez un petit peu de cash, parce que nous aussi, on compte rentrer en bourse, même si on est dans un calendrier qui va être bien plus long, dans le sens où dans son communiqué hier, OpenAI a dit que cette introduction en bourse prendrait du temps, parce qu'en fait aujourd'hui, ils sont pas prêts et ils disent très clairement dans le communiqué eh bien, que certaines choses seront sans doute plus faciles à faire tant que nous sommes une société non cotée. C'est une façon de dire en fait que pour l'instant, la rentabilité est pas là, et on le voit bien en ce moment, la rentabilité c'est le nerf de la guerre, c'est d'ailleurs ce qui est reproché depuis longtemps à SpaceX, hein, le fait de ne pas dégager de cash, à l'inverse de Anthropique, la maison mère de Claude.
Pierre Blanchet, ça va se payer 92 fois les ventes SpaceX. Qui y va ? Tout le monde en veut ?
Ah bah, je pense que là, en tout cas, aux dernières indications, l'introduction en bourse est bien souscrite. Elle a l'air même
oui,
très largement
que ça va.
Donc je pense que la réponse à votre question est assez nette. C'est certainement pas le multiple, qu'il soit de vente ou de profit, qui arrête les investisseurs. En fait, on est sur un champ qui est à la fois de la croyance. Hein,
Est-ce qu'on va aller sur Mars ? C'est
voilà,
ça qui vend.
Et puis on croit aussi au capitaine, hein, très largement. Il y a tout ça, et c'est pour ça que la part du retail est aussi importante. Et puis il y a une réalité par ailleurs, c'est que ça sera une grosse capitalisation. On ne sait pas exactement dans 5 ans quelle sera sa taille, mais on se doute a priori qu'elle sera importante. Et donc, il y a un effet assez mécanique d'entraînement. Et puis voilà, comme c'est quand même le secteur à la fois l'IA et l'espace, là, c'est la combinaison des deux, SpaceX, c'est là toute la puissance rhétorique quand même aussi qui est en œuvre. Et ben du coup, là, vous avez un confluent d'intérêts qui est fort. Et puis après, il y a les effets d'entraînement qu'on va avoir sur toutes les stratégies passives.
Avec les ETF, parce que ça va rentrer dans les indices.
Voilà, ça rentrera alors de façon accélérée pour le Nasdaq.
Ouais. Qui a changé ses règles.
Qui a modifié ses règles de façon assez substantielle. Pas le S&P, hein. Intéressant de noter que le S&P a considéré que voilà, ces règles étaient intangibles. Et pas que des règles hein, de flottant, il y a aussi les règles de la profitabilité des entreprises. On voit bien que là, il y a quand même deux notions entre l'accès finalement à l'innovation côté peut-être Nasdaq et la capacité d'épargner dans un cadre un peu un peu cadré, on va dire. Voilà, c'est un peu les deux sujets, mais ça va jouer fortement.
Comment vous regardez ça, Christian? Vous dites c'est une arnaque pour particuliers. Non, parce que quand vous avez un compte Revolut aujourd'hui ou Trade Republic, on veut vous en vendre partout. Je ne sais pas s'il faut y aller ou pas, mais oui. C'est-à-dire que c'est faut pas rater, quoi. Il y a un côté, on a peur du vide.
Achat spéculatif, tout bêtement. Moi, je vous dis que vu le niveau de valorisation, aujourd'hui, il y a pas beaucoup de potentiel parce que franchement dans le business qu'a aujourd'hui SpaceX, hein, les lanceurs, on sait que ça rapportera jamais beaucoup d'argent. C'est stratégique, mais ça rapportera jamais beaucoup d'argent. L'IA, il est plutôt en retard. Donc si j'avais à jouer l'IA, je jouerais plutôt Anthropix, voire OpenAI éventuellement quand ils s'introduiront en bourse. Donc c'est pas forcément ce qui fait rêver. Hein. Et donc finalement, la seule chose qui marche bien, c'est les télécoms, la partie télécom, mais aujourd'hui qui est quand même déjà assez mature, hein, qui est pas non plus l'innovation. Avec l'entrée de nouveaux concurrents qui pourront arriver dans les prochaines années. Donc oui, c'est bien, hein, c'est, je ne dis pas que c'est une mauvaise société, mais à ce niveau de valorisation, on se dit que d'ici un an, qu'est-ce qui ferait qu'on peut vraiment doubler la capitalisation? Il n'y a pas véritablement beaucoup de catalyseurs tant que ça. Donc oui, il se valorise très bien, bon, bah, tant mieux pour lui. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'impact que ça a sur la liquidité des marchés, parce qu'on voit qu'on était sur des marchés qui étaient en manque de thématiques. Parce qu'en gros, on joue l'IA, on joue la thématique de l'IA, mais de plus en plus sur quelques acteurs. Hein. Mm. En gros, si vous n'aviez pas du Micron, du SK Hynix et du Samsung Electronics, bah, vous ne jouiez pas vraiment la thématique de l'IA parce qu'on a concentré sur les acteurs les plus sûrs parce que le marché sait qu'il y a quand même beaucoup de risques derrière ces investissements. Et donc, les hyperscalers, on voit maintenant, hein, ceux qui investissent massivement, on prend en compte leurs investissements, mais on ne les joue pas en bourse. Et donc là, on offre de nouvelles possibilités de diversification. Tout le monde s'engouffre là-dedans, mais c'est aussi parce qu'on manque de thématiques. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez investir en bourse? Vous avez l'économie mondiale qui n'est pas en pleine forme, vous avez les incertitudes géopolitiques, vous avez les cours du pétrole qui quand même qui sont appelés à rester élevés. Donc tout ça fait qu'on a un environnement global où on n'a pas beaucoup de choix d'investissement. Donc on s'engouffre sur ces thématiques-là, on joue ces IPO, mais finalement, derrière, on voit qu'on surpaye tout ça et à un moment donné, il y aura un retour de bâton, forcément. Bon, à très court terme, en spéculatif, oui, on va sur ces valeurs-là parce que je dirais, il n'y a pas d'autre alternative. L'effet Tina l'emporte. Et donc, on va sur ces nouvelles thématiques. Mais attention, il y aura un moment donné, il y aura forcément un retour de bâton.
Etienne, avec des méga capitalisations, on voit ça sur les indices coréens. Dès que ça bouge sur Samsung ou SK Hynix, il faut mettre les courts-circuits, quoi. C'est gros.
C'était le cas notamment vendredi, hein, interruption de cotation pendant 20 minutes à Séoul. Alors, ça part très vite dans un sens, mais aussi très vite dans l'autre. Typiquement, là, la clôture, à Séoul, on est à plus 8% parce que SK Hynix a gagné plus 11%. Et typiquement, sur la bourse de Séoul, aujourd'hui, comme disait Christian, on est dépendant de deux valeurs, c'est SK Hynix et Samsung, dans le sens où, historiquement, quand vous achetez un indice, vous pensez diversifier, mais en fait, là, vous ne l'êtes plus du tout, dans le sens où vous êtes dépendant de deux valeurs. Donc, c'est un problème pour cette place de cotation. C'est un problème également pour les ETF. Hein. J'imagine également Pierre Blanchet, dans le sens où, on le voit bien, sur les MSCI Asia, typiquement, la composante semi-conducteur a explosé.
Oui, tout à fait. En fait, ça ramène au sujet cœur des ETF, hein, qui ne font que répliquer, avec plus ou moins d'efficacité, des indices. Et le choix, en fait, c'est l'indice.
Mais l'indice, c'est la valeur maintenant. Donc
Alors, oui et non. C'est la valeur quand on est dans l'hyperconcentration. Mais c'est pour ça que c'est intéressant, ce qu'a dit S&P. Et deuxièmement, si vous regardez les grands indices, ceux qui sont finalement dans le cœur de portefeuille, qui traquent les MSCI World Equity, l'entreprise dont on parlait, elle aura un poids qui sera finalement assez marginal en fait au départ. Je pense que le sujet, en fait, c'est plutôt la gestion active qui peut en fait se saisir des opportunités, alors peut-être spéculatives, mais qui peut le faire à T0.
Ouais.
On peut participer à l'introduction en bourse, et Étienne l'a mentionné, il y en a d'autres derrière. Hein. Alors que évidemment la gestion passive par structure, elle va suivre un indice, et c'est ce qu'on lui demande. Donc vous avez quand même, dans un monde où il y aurait un peu plus d'introduction en bourse, on va peut-être retrouver un peu de vertu à la gestion active. Voilà, mais en fait elle ne s'oppose pas, c'est juste la décalage de deux semaines.
Hein. Bon, en Europe, on a eu deux intros, hein. Non, trois, deux depuis le début de l'année. On est assez tranquille de ce côté-là. On n'est pas sur les actualités de l'introduction en bourse en Europe. Il nous reste 1 minute 30, Étienne. Ouverture dans 7 minutes du côté des marchés européens. Qu'est-ce qu'on attend?
Moins 0,3% à l'instant en préouverture pour le CAC 40. Beaucoup moins de volatilité à Paris en Europe par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en Asie, dans le sens où on a beaucoup moins de valeurs semi-conducteurs et surtout elles pèsent assez peu dans les indices, en dehors bien sûr de ASML. Le pétrole qui est donc à 92$. Donald Trump qui a dit qu'il était dans ses derniers efforts afin de parvenir à un accord avec l'Iran, et donc le marché qui anticipe encore et toujours la fin de ce conflit, même si sur le marché obligataire c'est pas vraiment la même chanson, parce qu'on aura la BCE jeudi, et quand vous regardez le 10 ans français, on est toujours au-delà des 3,7%. 3,05 pour le Bund allemand.
Christian, je vous lance un défi, il reste 15 secondes. La BCE, augmentation des taux jeudi, on y va tout droit, c'est grave, c'est pas grave?
Alors oui, et c'est plus de la communication ouais, pour rassurer les marchés, pour dire que la BCE va tout faire pour réduire l'inflation. Et donc c'est vraiment un acte plus de communication, il faut y voir ça plus qu'un acte en réponse à l'économie.
Pierre Blanchet?
Oui, je confirme, ils vont monter les taux. En fait, la question c'est, est-ce qu'ils annoncent un peu la suite? Juillet ou septembre, il y a au moins 3 hausses de taux qui sont pricées. Ouais. Donc voilà, communication importante.
On suivra évidemment tout ça depuis Francfort, puisque Aude-Kersulec sera évidemment jeudi matin depuis Francfort. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus ce matin dans le Club de la Bourse.